Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 12. L'Empire et le peuple. Première partie.
When the farmer comes to town with his wagon broken down, the farmer is the man that feeds them all. If you'll only look and see, I think you will agree that the farmer is the man that feeds them all. The farmer is the man.
C'est lui, le fermier. C'est lui, le fermier. Il vit à crédit jusqu'à l'automne, avec des intérêts si énormes. C'est un miracle s'il ne meurt pas. Et le prêteur ramasse la mise.
And the preacher and the cook, they go strolling by the brook, but the farmer is the man that feeds them all. The farmer is the man.
C'est lui le fermier.
The farmer is the man.
C'est lui le fermier.
Lives on credit till the fall.
Il vit à crédit jusqu'à l'automne.
With the interest rate so high, it's a wonder he don't.
Le souffle de plus en plus court. Sa vie est une honte.
When the banker says he's broke and the merchant's up in smoke.
Il en oublie que c'est lui, le fermier, qui nourrit tous les autres. Selon Lawrence Goodwin, si le mouvement ouvrier avait été capable de faire dans les villes ce que les populistes faisaient dans les zones rurales, c'est-à-dire créer pour le monde du travail une culture de coopération, d'estime de soi et d'analyse économique, de grands changements auraient pu se produire aux États-Unis. Mais il n'y eut que des relations sporadiques et d'ordre pratique entre les mouvements fermiers et ouvriers. Aucun d'eux ne réussit à convaincre l'autre. Il existait pourtant des signes d'une prise de conscience commune qui aurait pu, en d'autres circonstances, entraîner l'émergence d'un mouvement unifié. Indubitablement, les populistes, comme nombre de blancs américains, étaient racistes et anti-immigrés. Parce qu'ils ne pensaient pas que la question raciale était aussi importante que les problèmes économiques. Ainsi, selon le Farmers Alliance, le Parti du Peuple a été créé non pour donner la liberté aux Noirs, mais pour émanciper tous les hommes, pour donner à tous la liberté dans le travail, sans laquelle il n'est pas de liberté politique possible. Le soutien apporté par les populistes aux travailleurs dans leur lutte concrète était plus important à leurs yeux que les connexions possibles avec le mouvement ouvrier. Aux élections de 1896, première campagne où l'argent joua un rôle aussi important, Bryan fut battu par William McKinley, candidat derrière lequel s'était mobilisé la presse et le monde des affaires. La moindre trace de populisme dans le Parti démocrate parut intolérable aux gros bonnets de la société qui usèrent de tous les moyens pour la faire disparaître. Comme lors de la plupart des périodes électorales américaines, il s'agissait de raffermir le système après des années de contestation et de révolte. Les Noirs restaient sous contrôle dans le Sud. Les Indiens avaient été définitivement expulsés des grandes plaines de l'Ouest. Par une froide journée de l'hiver 1890, l'armée américaine attaqua un campement indien à Wounded Knee, dans le Dakota du Sud, faisant 300 morts, hommes, femmes et enfants. Ce fut le point culminant de 4 siècles de violence initiée par Christophe Colomb et destinée à confirmer que ce continent appartenait bel et bien à l'homme blanc. Mais à certains blancs seulement. Tant il était clair que l'État se tenait prêt à écraser les grèves ouvrières, par la loi si possible, par la force si nécessaire. Lorsqu'un mouvement de masse relativement menaçant se développait, le système bipartisan était prêt à envoyer une de ses colonnes pour le circonvenir et en extirper toute vitalité. En 1890, l'année même du massacre de Wounded Knee, le 29 décembre 1890, l'armée américaine encercle un campement d'environ 300 Indiens Sioux en majeure partie composée de femmes, d'enfants et de vieillards. Pendant que les soldats fouillent le camp et récupèrent les armes des Indiens, un coup de feu éclate. Aussitôt, l'armée ouvre le feu avec les mitrailleuses Hotchkiss installées tout autour du campement. Environ 300 cadavres d'Indiens furent jetés, quelques jours plus tard, dans une fosse commune. Le bureau du recensement avait déclaré « close » la frontière intérieure. La machine commerciale, suivant son penchant naturel à l'expansion, avait déjà commencé à regarder vers le large. La crise sévère qui éclata en 1893 vint conforter l'idée, développée par les élites politiques et financières, que les marchés étrangers pourraient bien être la solution au problème de la sous-consommation des produits nationaux et permettre ainsi de prévenir des crises économiques comme celle qui avait entraîné la guerre des classes au cours des années 1890. En outre, l'aventure étrangère ne pourrait-elle pas détourner vers un ennemi extérieur une part de l'énergie placée dans les grèves et autres mouvements protestataires ? Il ne s'agissait probablement pas d'un plan soigneusement concerté par l'ensemble de l'élite américaine, mais plutôt du développement quasi naturel des dynamiques jumelles du capitalisme et du nationalisme. Outre-mer n'était certes pas une idée neuve. Bien avant que la guerre contre le Mexique ne permette aux États-Unis d'atteindre le Pacifique, la boussole de la doctrine Monroe indiquait le sud, vers l'Amérique centrale et au-delà. Définie en 1823, alors que les pays d'Amérique latine prenaient leur indépendance vis-à-vis de l'Espagne, cette doctrine entendait faire clairement comprendre aux Européens que les États-Unis considérait désormais l'Amérique latine comme relevant de sa sphère d'influence. Aussitôt, certaines personnalités américaines se mirent à rêver également au Pacifique, Hawaï, le Japon et les grands marchés chinois. On fit d'ailleurs bien plus qu'y rêver. Les forces armées américaines avaient déjà fait quelques excursions outre-mer, comme le confirme un rapport rédigé en 1962 par le département d'État et présenté par le secrétaire d'État Dean Rusk devant un comité sénatorial afin de rappeler les divers précédents à l'intervention armée contre Cuba. Intitulé « Quelques exemples de l'usage de la force armée américaine à l'étranger, 1798-1945 ». Il rapporte 103 opérations extérieures ayant eu lieu entre 1798 et 1895. 1852-1853, Argentine. Les Marines sont débarqués et se sont maintenus à Buenos Aires pendant une révolution afin de protéger les intérêts américains. 1853, Nicaragua. 1853-1854, Japon. 1853-1854, Ryukyu et les îles Bonin. 1854, Nicaragua. 1855, Uruguay. 1859, Chine. 1860, Angola, Afrique occidentale, Portugal. 1893, Hawaï. 1894, Nicaragua. Il y avait donc déjà eu, avant les années 1890, bien des incursions et autres interventions dans les affaires intérieures de pays étrangers. L'idéologie expansionniste était largement répandue parmi les élites militaires, politiques et commerciales américaines. ainsi que chez certains responsables du mouvement des fermiers qui pensaient que l'ouverture des marchés étrangers leur profiterait. Theodore Roosevelt et de nombreux autres responsables américains avaient été largement influencés par le capitaine de la marine américaine, A.T. Mahan, propagandiste populaire de l'idée expansionniste. Selon Mahan, les pays possédant les marines les plus puissantes hériteraient du monde entier. Les Américains doivent à présent regarder vers l'extérieur. Le sénateur du Massachusetts, Henry Cabot Lodge, écrivait dans la presse. Dans l'intérêt de notre commerce, nous devrions construire le canal de Panama et, pour protéger ce canal, comme pour assurer notre suprématie commerciale dans le Pacifique, nous devrions contrôler les îles Hawaï et conforter notre influence sur les Samoa. En outre, lorsque le canal de Panama sera construit, Cuba deviendra une nécessité. Les grandes nations annexent rapidement en vue d'assurer leur future expansion et leur sécurité. Toutes les terres inoccupées du globe. C'est un mouvement qui va dans le sens de la civilisation et de l'avancement de la race. En tant que membre du cercle des grandes nations, les États-Unis ne peuvent pas ne pas suivre cette voie. À la veille de la guerre hispano-américaine, le Washington Post écrivait: un nouveau sentiment semble nous habiter, la conscience de notre propre force, et avec elle, un nouvel appétit, le désir d'en faire la démonstration. Ambition, intérêt, appétit foncier, fierté ou simple plaisir d'en découdre, quelle que soit la motivation, nous sommes habités par un sentiment nouveau. Nous sommes confrontés à un étrange destin. Le goût de l'empire règne sur chacun de nous comme le goût du sang règne sur la jungle. Ce drôle de goût dans la bouche du peuple américain reflétait-il une agressivité instinctive et inapaisable ou quelque intérêt bien compris? Cet appétit, s'il existait, n'était-il pas plutôt fabriqué, encouragé, promu et avivé par les manias de la presse, l'armée, le gouvernement et les universitaires obséquieux de l'époque? Quelques années avant son élection à la présidence des États-Unis, William McKinley déclarait qu'il fallait un marché extérieur pour écouler la surproduction américaine. Le sénateur de l'Indiana, Albert Beveridge, affirmait également, début 1897, « Les usines américaines produisent plus que ne peut consommer le peuple américain. Le sol américain produit également à l'excès. Le destin dicte notre conduite. » Nous devons dominer le commerce mondial et nous le dominerons. Lorsque les États-Unis renoncèrent à annexer Hawaï, après que quelques Américains, représentant la combinaison des intérêts missionnaires et agricoles de la famille Dole, eurent installé sur place leur propre gouvernement, Roosevelt parla de crimes contre la civilisation blanche. Lors d'une conférence donnée au Naval War College, il affirma que toutes les races dominantes se sont toujours affrontés aux autres races. Aucun triomphe obtenu par la paix n'est aussi glorieux qu'un triomphe obtenu par la guerre. Roosevelt méprisait souverainement les races et les peuples qu'il jugeait inférieurs. Lorsqu'une foule lyncha à la Nouvelle-Orléans des immigrants italiens, Roosevelt jugea que les États-Unis devaient offrir une compensation au gouvernement italien. Au même moment, il écrivait à sa sœur que ce lynchage était plutôt une bonne chose, ajoutant qu'il en avait dit autant lors d'un dîner réunissant une brochette de diplomates métèques scandalisés par le lynchage. Si 90% des produits américains étaient vendus en 1898 sur le marché intérieur, les 10% restants rapportaient tout de même $1 milliard. Walter Lafeber écrit dans The New Empire qu'en 1893, le commerce américain surpassait celui de n'importe quel autre pays au monde, excepté celui de la Grande-Bretagne. Les produits agricoles dépendaient depuis longtemps des marchés extérieurs, en particulier dans les secteurs clés du tabac, du coton et du blé. Pendant les années 1875-1895, les capitaux américains investis à l'étranger atteignirent $1 milliard. En 1885, l'Age Steel, magazine de l'industrie sidérurgique, affirmait que le marché intérieur ne suffisait plus et que le problème de la surproduction industrielle devrait être résolu et prévenu à l'avenir par la croissance du commerce extérieur. Le pétrole. Ce fut au cours des années 1880-1890 que le pétrole devint un poste d'exportation essentiel. En 1891, l'entreprise familiale des Rockefeller, la Standard Oil Company, comptait pour 90% des exportations américaines en pétrole d'éclairage et contrôlait 70% du marché mondial. Le pétrole arrivait désormais juste derrière le coton dans les produits d'exportation américain.
Je ferai n'importe quoi pour du pétrole. Je suis capable de tout pour du pétrole. Un homme qui a du pétrole, je flambe. Je fonds. Je brûle. Je me consume.
Cette politique expansionniste serait encore plus séduisante si elle pouvait passer pour un acte de générosité, comme venir en aide aux rebelles souhaitant se débarrasser d'une domination étrangère, par exemple à Cuba. En 1898, les rebelles cubains luttaient depuis déjà 3 ans pour leur indépendance. Il était encore possible à cette époque de créer un engouement national en faveur d'une intervention américaine. Il semble qu'au départ, les milieux d'affaires n'aient pas voulu d'une intervention militaire à Cuba. Tant qu'ils pouvaient obtenir le libre accès aux marchés extérieurs, les négociants américains n'avaient pas besoin de colonies ou de guerres de conquête. Cette idée de la porte ouverte devint au XXe siècle le thème dominant de la politique étrangère des États-Unis. Il s'agissait d'une approche de l'impérialisme certainement plus sophistiquée que la traditionnelle construction impériale pratiquée par les Européens. Selon Eppelmann Williams, ce débat national est généralement considéré comme une bataille entre les impérialistes, menés par Roosevelt et Lodge, et les anti-impérialistes, menés par William Jennings Bryan et Karl Schurz. Pourtant, il serait plus juste et plus pertinent de considérer qu'il s'agissait d'un combat entre 3 factions. Le 3e groupe était composé d'hommes d'affaires, d'intellectuels et de politiciens qui s'opposaient au colonialisme traditionnel et défendaient une politique de la porte ouverte à travers laquelle la puissance économique prépondérante de l'Amérique pénétrerait et dominerait toutes les régions sous-développées du globe. Néanmoins, cette préférence affichée par certains groupes d'affaires et quelques politiciens pour ce qu'Appelman Williams appelle « l'empire informel », sans guerre, était toujours sujette à révision. Si l'impérialisme pacifique s'avérait être impossible, il devenait nécessaire d'avoir recours à l'intervention militaire. Le 29 décembre 1890, l'armée américaine encercle un campement d'environ 300 Indiens Sioux, en majeure partie composé de femmes, d'enfants et de vieillards. Pendant que les soldats fouillent le camp et récupèrent les armes des Indiens, un coup de feu éclate. Aussitôt, l'armée ouvre le feu avec les mitrailleuses Hotchkiss installés tout autour du campement. Environ 300 cadavres d'Indiens furent jetés, quelques jours plus tard, dans une fosse commune. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.